très amoureux du jazz. Marie-France Guimaroche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Avec le livre heureusement découvert dans la librairie pleine de charme d'Edith Guimard, une lointaine cousine sans doute, à Bécherel, ce délicieux village breton, je fais mon miel. Grâce à lui, je peux vous proposer une série d'émissions consacrées aux jazzmen d'aujourd'hui. C'est le titre de cet ouvrage, signé de Raymond Orix. Nous retrouvons aujourd'hui Jerry Mulligan, au cours d'une deuxième séance d'enregistrement chez Capitole. Au mois d'avril suivant, l'orchestre eut une seconde séance au cours de laquelle on enregistra « Vénus de Milo » de Mulligan. Une fois de plus, ce fut la création d'une sonorité d'ensemble heureusement dense et variée. Et ce fut probablement alors la meilleure composition de Jerry. Quoiqu'il fût déjà clair qu'il était un excellent arrangeur, aux possibilités exceptionnelles. La substance mélodique de ses compositions originales était d'ordinaire assez pauvre. On pouvait déjà le remarquer dans ses arrangements pour Lawrence. Même la subtilité qu'il apportait aux compositions de Davis ne parvenait pas à déguiser la nature essentiellement mécanique de thèmes comme Jeru. Vénus de Milo apparaît une exception partielle que d'autres devaient suivre. L'absence de tout élan lyrique vigoureux devait pourtant demeurer une faiblesse dans l'œuvre de Jerry Mulligan. Et de fait, à ce moment de sa carrière, la plupart de ses dons semblaient converger vers l'arrangement. En effet, il n'avait pas jusqu'alors montré qu'il pouvait être plus qu'un soliste compétent. Ce fut quelque temps avant qu'il n'ait atteint dans son jeu le poli et la perfection qui semblent avoir caractérisé ses compositions dès le début. Sa faiblesse ne résidait pas tellement dans l'absence d'idées que dans une difficulté permanente à les communiquer aisément. Certains solos, comme celui de Boudot, témoignent d'une curieuse absence de direction et de force, tandis que la sonorité dans Jeru est désagréablement anguleuse. Dans Godchild, il emploie une sonorité plus douce et met en jeu un solo assez apaisé qui n'a rien de déplaisant, mais ne sonne pas très bien après l'improvisation de Miles Davis. Toutefois, dans ces enregistrements, les solos sont trop brefs pour qu'on puisse songer à les utiliser comme des témoignages de ses limitations à cette époque. En 1949, Mulligan a joué dans un groupe sous la direction de Kay Winding avec Brew Moore et George Wellington. Il travaillait au Roost et à Bop City. Au cours du mois d'août de la même année, ils ont enregistré 4 morceaux. Cet orchestre était de loin moins discipliné et laissait à ses membres beaucoup plus de liberté que l'ensemble de Miles Davis. Comme on pouvait s'y entendre, Mulligan a joué avec beaucoup plus de force. Cependant, dans des solos comme Night of Bob Mountain ou Waterworks, sa sonorité reste d'une qualité nasale particulièrement déplaisante, ce qui montre bien que si ses idées étaient alors mieux définies, son contrôle n'était pas encore susceptible de lui permettre de jouer avec abandon. Thank you. Au cours de cette même année, 1949, Mulligan reprit place dans l'orchestre de Lawrence, à la fois comme membre de la section sax et comme compositeur. Quelques séances d'enregistrement s'en suivirent. Au cours de l'une d'elles, il produisit son arrangement de « Between the Devil and the Deep Blue Sea ». Que ce fût en public ou dans les séances de radio, il faisait équipe avec Phil Urso, comme ténor, dans un petit groupe de jazz formé à partir du grand orchestre. Pendant cette période, le jeu de Mulligan commença à acquérir un régime plus serein. Ce régime, qui devait durer pendant quelques années, porta ses premiers fruits avec évidence lors de la séance d'enregistrement finale de l'orchestre de Miles Davis en mars 1950. Ces quatre mesures dans Moon Dreams manifestent une nouvelle douceur du ton et le solo de Rocker une clarté d'articulation qui marque un progrès définitif sur le travail de l'année écoulée. Quelques jours après, avec l'orchestre Chubby Jackson, il enregistra I May Be Wrong. C'était là le plus long solo qu'il ait enregistré jusqu'alors. Et quoique l'enregistrement eût gagné à être pris dans un tempo légèrement plus rapide, il fit preuve d'un joli développement mélodique. Que son jeu n'était pas encore au point. So What, enregistré le même jour, le démontre. Là, il livre des idées que l'on peut maintenant reconnaître comme caractéristiques. Mais sa sonorité retombe dans sa rudesse initiale. On peut particulièrement le remarquer dans le Chaz avec Zoot Sims. À l'automne 1951, la marque Prestige décida de lancer une série d'enregistrements micro-sillon New Sounds. Un certain nombre de musiciens furent invités à faire des enregistrements. On leur laissait carte blanche pour le choix des instruments et des musiciens. Cela témoigne de l'importance qu'avait alors Jerry Mulligan. On le considéra comme un candidat éventuel pour ce projet. On n'a pas assez prêté attention aux morceaux qu'enregistra alors Mulligan. Ils marquent une étape dans son développement. L'ensemble de Miles Davis avait été essentiellement une aventure de groupe qui, quoique donnant des résultats très impressionnants, exigeait de chaque participant qu'il sacrifiât quelque chose de sa personnalité propre à l'unité de l'ensemble. On peut comprendre que, hormis sa faiblesse, une telle musique ne nous donne qu'une petite idée de l'orientation et des possibilités de Mulligan. Par contraste, le seul fait qu'il ait été chargé d'enregistrer pour prestige a donné naissance à une œuvre au caractère marqué, assez dense dans l'ensemble, et qui fut la première expression cohérente, quoique non encore menée à pleine maturité, de sa personnalité musicale. L'exécution d'ensemble souffrirait d'une comparaison avec les résultats de ses concerts ultérieurs, et ce groupe ne peut prétendre rivaliser dans la variété des possibilités avec l'ensemble de Miles Davis. Mais ce qui frappe ici, c'est l'unité achevée de la conception. Malgré une ou deux pièces faibles comme Roundhouse, les possibilités créatrices de Mulligan se révélaient avec clarté. Funhouse, en particulier, montrait que son talent de compositeur s'était cristallisé et qu'en dépit de l'absence de sentiments lyriques, Jerry pouvait maintenant produire des œuvres originales aussi personnelles qu'accomplies. On y voyait également se préfigurer les éléments d'un langage mélodique qui devait recevoir une expression mieux définie dans les enregistrements des années suivantes. Millennium et Funhouse, qui interprétaient seulement des saxes et une section rythmique, mettaient pourtant en avant le climat émotionnel du célèbre quartet. Mulligan y témoignait aussi avec évidence d'un vif intérêt pour le contrepoint. Thank you. Les progrès de Mulligan dans son jeu en solo ne furent pas moins remarquables. Il commença alors de rejoindre la qualité de ses compositions. Sa sonorité, quoique rugueuse et morcelée, avait acquis de la profondeur et de la plénitude. Elle constituait une partie intégrante de sa technique d'expression et non plus le handicap qu'elle avait représenté dans le passé. Son exécution était de loin plus assurée. Une discipline plus grande scrutait les phrases, ce qui contribuait à accroître la pleine force et la clarté de son improvisation. Les 36 chorus dans Mulligan's 2 témoignaient de ses qualités et donnaient en même temps une impression générale de forme et de développement. Cela permettait de gré bien de son avenir de soliste et de compositeur. En 1952, Mulligan se rendit en Californie où, après avoir rencontré Chet Baker, il organisa le quartet qui devait lui permettre d'accéder à une renommée internationale. Si l'on se rappelle la finesse dont il avait fait preuve en choisissant Alan Eager et George Wellington pour les enregistrements Prestige, on comprend difficilement qu'il ait choisi Baker pour cette nouvelle aventure. Il est certain qu'il existait un degré inhabituel de sympathie musicale entre eux, mais le style monotone du trompettiste semblait difficilement pouvoir s'accorder avec la vigueur grandissante et la fermeté croissante du jeu de Mulligan. Peut-être le simple fait qu'il s'intéressait au genre de groupe que Mulligan avait en tête fut-il le facteur décisif. Une fois de plus, les motivations qui ont conduit à la formation du quartet peuvent donner lieu à bien des spéculations. La conviction que l'absence de piano laisse une plus grande liberté aux solistes commençait à peine de naître à cette époque. On aurait pu s'attendre à une série d'improvisations en duo, se détachant nettement des séquences d'accords de base, mais rien de semblable ne s'est produit. Dans des morceaux tels que Lady Bird, si l'on rencontre une masse considérable de contrepoints, le modèle reste assez strict et élaboré. C'est peut-être la pauvreté bien connu de Baker en matière d'invention et d'exécution, ainsi que son manque aigu de variété dans le travail, qui ont poussé Mulligan à ne jamais exploiter pleinement les possibilités de son nouvel orchestre, ni les avantages de la longue durée des phonogrammes. Et ceci ne fait que rendre le choix de Baker beaucoup plus incompréhensible. Nous avons entendu dans cette émission d'abord Bunny, que Jerry Mulligan a joué avec Johnny Hodges, puis Stardust, ensuite Open Country en quartet également avec Chet Baker, et enfin Festive Minor. Avec Emily Glory, nous avons décidé d'un commun accord de vous livrer ici l'intégralité des morceaux de jazz que je vous propose dans ce cycle d'émissions. Des pépites en réalité. Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro, enregistré par Pierre Écart, réalisé par Emily Glory, qui assure aussi la mise en musique dans les studios du Rocas de Radio Grand Ciel. Thank you.